Tous, que Dieu vous bénisse. Oui, comme vous savez, notre frère Raphaël ne va pas très bien. Alors voilà, nous avons prié pour lui. Je demande encore à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur le net de prier pour lui, afin que Dieu le relève. Hein. Et notre frère Stéphane qui va lui très bien. Ça y est, là, sa hanche nouvelle. Et ma foi, il est déjà debout. Le premier jour, il était déjà debout. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire maintenant. Donc, il est tout. Il m'a dit que demain, avec son voisin de chambre, donc dans sa chambre, il y a un type qui a été opéré de la même hanche, alors il dit on va faire une course de déambulateur dans le couloir. Voilà, donc voilà, ça c'est Stéphane. Autrement, ben oui, merci pour la Michou qui a son anniversaire, c'est pas aujourd'hui, c'était le 11, bon, on en a pas beaucoup parlé le 11, parce que bon, vous avez vu tout ce qui s'est passé, donc priez pour tous ces gens, nous continuons à prier pour tous nos frères et sœurs là-bas. Et voilà, que c'est terrible, c'est terrible. Voilà, nous avons fêté déjà, Michou et moi, tous les deux, hein, et on était invités au restaurant par notre ami Marc avec sa femme, et puis avec Kylian qui était là. Kylian, vous ne le reconnaîtriez pas, il est plus grand que moi. Ah oui, vraiment, il est plus grand que moi. Hein. Et alors, c'était vraiment magnifique. Il nous a invités au McDonald's. Non. Ça ne ressemble pas tellement à Marc, ça. Non, c'était à la Tour d'Argent, mes enfants. C'était pas rien. Hein. Oh, mais la Michou le mérite bien. Hein. Elle le vaut bien, comme dit la pub. Oh, c'était somptueux. C'était magnifique. Et puis, après, eh bien, tous les deux, en amoureux, nous sommes allés au théâtre. Voilà, parce que bon, moi, vous savez bien comment je suis charnel. Alors, j'aime bien le théâtre, je vous le dis. Et puis voilà, c'est vrai, j'aime bien le théâtre. Puis je trouve que c'est dommage de vous en priver, parce qu'il y a des très belles choses qui sont produites là. Alors, il faut choisir, il y en a des moches, puis il y en a des biens. Et puis, on aime tellement le théâtre qu'on a d'ailleurs deux acteurs de notre église. Alors, on pense à eux aujourd'hui, hein, à Lydie et Olivier, on se réjouit de les voir bientôt. Que Dieu les bénisse. Voilà. Je voudrais qu'on lise ce matin Matthieu chapitre 6, versets 22-23. C'est vrai que le temps passe, hein. Je ne pensais pas arriver à 60, combien ? 61 ? Quelle horreur. Pas Michou, hein, moi, 61. Non, Michou est beaucoup plus vieille. Mais elle ne les fait pas. Non. Elle est magnifique, magnifique. Matthieu 6, 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans des ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes. Amen. Dans le village de Kpalimé, au Togo, c'est juste à côté de Lomé, faut faire un peu de route quand même, hein, trois quarts d'heure à peu près, et on arrive à Kpalimé. C'est un gros village, c'est un peu comme Fada, si vous voulez, pour ceux qui connaissent le Burkina. Au Togo, là, nous avions des réunions chez le pasteur Atta Kofi, et une femme est venue le soir à la réunion avec toutes les autres, tous les autres hommes et femmes. Mais cette femme, elle, vivait dans les ténèbres depuis 5 ans, elle était aveugle. Les animateurs ont commencé à conduire la foule dans les chants de louanges, et pour ceux qui sont déjà venus en Afrique, vous savez comment c'est très long. Alors ils dansent, et puis après il y a une chorale, et puis après, oh là là, s'il y a une chorale des femmes, il y a une chorale des hommes, s'il y a une chorale des hommes, une chorale des enfants. Et puis il y a toujours une chorale qui vient d'un autre village, etc. Ça dure, ça se prolonge, c'est très long. Et Nicolas me regarde, il se marre à chaque fois parce qu'il sait que je déteste ça. C'est pas que je déteste ça, mais vous savez, quand on a un message à délivrer de la part du Seigneur Jésus, bon, alors moi je me prépare, je prie pour ça, je médite, et je suis dans un certain état. Je suis pas, je vais pas là comme on va, je sais pas. Moi j'ai travaillé comme balayeur, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une autre préparation pour aller prêcher un message de Jésus-Christ que pour aller balayer. Il n'y a pas de saut métier, mais disons qu'il y a une préparation, une profondeur. Donc je suis là, puis j'attends, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Il me semble que tout ce folklore avant la réunion, ça me vide. Alors voilà, c'est pourquoi maintenant j'aime bien quand on m'emmène juste. Au début, je ne comprenais pas. Les pasteurs me disaient, oh, on va venir te chercher juste avant la prédication. Je disais, non, moi j'aime bien voir un peu comment c'est. Maintenant, j'aime plus. J'aime bien quand on m'emmène juste quand c'est le moment de prêcher, parce que c'est tellement long, ça me vide, ça me vide. Et alors, ce soir-là, enfin, on m'appelle et je peux aller donner ce message qui est en moi, que je sens le Saint-Esprit qui est pressé en moi. Alors, bon, la Bible dit que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire, alors là, je me tais, mais c'est comme un feu qui est en moi et ça brûle et j'ai envie d'y aller le dire, j'ai envie d'aller le dire, j'ai envie de manifester tout ça. Bon, et ce soir-là, je prêche et je prêche sur l'œuvre de Jésus à la croix et j'amenais chaque personne à croire que Jésus est venu, selon la parole de Dieu, pour justement ce moment-là à la croix, pour donner sa vie à notre place, pour deux choses principales. Premièrement, le salut de notre âme et la guérison de notre corps. C'est ce que nous trouvons dans la Bible. Alors je disais fermement que pour Jésus, c'était aussi facile de guérir quelqu'un que de le pardonner. Vous vous rappelez, un jour, il a dit à des gens qui murmuraient dans un coin, et il a dit, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé, il était guéri. Pour Jésus, ce n'est pas difficile, il est venu pour cela. J'expliquais donc que le seul problème ne réside pas en Dieu, mais il réside dans ceux qui entendent la bonne nouvelle qui est annoncée. Est-ce qu'ils vont croire ou est-ce qu'ils ne vont pas croire? Alors je terminais ma prédication par un appel demandant aux gens qui voulaient recevoir Jésus comme sauveur de se lever. Et on a prié pour beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus ce soir-là comme sauveur. Et puis on a commencé la prière pour les malades. Alors là, j'ai encore pris un peu de temps pour expliquer au sujet de la guérison divine. Et cette femme aveugle qui était dans l'auditoire, qui m'avait entendu donc délivrer ce message, n'est pas venue à l'imposition des mains. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce qu'en écoutant la parole de Dieu que je prêchais, elle a cru ce que je disais, et sur sa chaise, au milieu de cette grande réunion, elle a été guérie par Jésus. Tout à coup, elle est passée des ténèbres à la lumière sans prière, simplement par la foi. Un jour, une femme s'est approchée de Jésus, on trouve ça dans la Bible, elle a dit, si seulement quand il passe, je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle n'a pas prié, elle n'a pas demandé quelque chose, Jésus n'a pas prié pour elle, il ne lui a pas imposé les mains, elle a simplement cru, elle a dit, si seulement je peux toucher, et elle l'a fait. Jésus s'est retourné, elle a dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont dit, oui, mais tout le monde te touche, il y a la foule qui est partout. Oui, mais quelqu'un m'a touché avec foi. Ah, voyez-vous? Et il s'est retourné, il a dit, et la femme a dit, c'est moi, c'est moi. Il dit, ta foi t'a guéri, et c'est ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, la foi, elle s'empare des choses. On n'est pas obligé d'attendre la prière. La foi, elle s'empare des choses. Amen, c'est vrai. Donc, sa foi l'a sauvée. Elle a cru que j'étais un envoyé de Dieu. Elle a cru qu'en me croyant, c'est Dieu qu'elle croyait. Parce que Dieu m'avait envoyé pour dire ce que j'étais en train de dire. Je n'étais pas en train simplement de raconter une petite histoire que c'était passé il y a 2000 ans et puis au revoir, à la prochaine. Non, 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 non. Elle savait que j'étais envoyé par Dieu pour quelque chose. Ça, c'est la foi. Elle était venue à tâtons, se faisant aider par des amis. Elle était aveugle dans les ténèbres. Et puis elle est repartie en marchant toute seule, guérie, marchant à la lumière. C'était tard le soir, mais pour elle, même les ténèbres de la nuit du Togo étaient de la lumière. Ça, vous pouvez croire, c'est une différence de marcher en ne voyant jamais rien et de marcher même s'il fait nuit dehors. Elle est repartie donc guérie. Gloire à Dieu. Dans ce qu'on vient de lire, on voit que Jésus compare deux conditions, la condition d'une personne aveugle et la condition d'une personne qui voit. Et il nous dit que ce qui les différencie, enfin l'un de l'autre, c'est les ténèbres et la lumière. Cette femme aveugle, elle était très limitée dans sa vie à cause de sa cécité. Parce que finalement, la quasi-totalité de ce que fait notre corps dépend de notre capacité de voir. Ben, essayez de courir sans voir, essayez de conduire, essayez de lire. Et moi, ça serait terrible, pas lire, c'est terrible. L'œil illumine donc ce que notre corps accomplit avec les mains, avec les pieds, tout. C'est l'œil qui illumine tout ça. C'est vrai que beaucoup d'aveugles aujourd'hui se débrouillent très bien. Ils apprennent à faire des quantités de choses et ils arrivent à développer aussi des facultés qui compensent un peu leur cécité. Pourtant, le principe, il est quand même là. Une personne qui voit, elle marche dans la lumière. Et une personne qui ne voit pas, ben, elle marche dans les ténèbres. C'est une immense différence. Et cette immense différence, elle passe par un tout petit organe, l'œil. L'œil. Vous savez, la plupart des gens sont aveugles dans ce monde. Ils sont aveugles parce qu'ils cherchent de tout leur cœur. Ils cherchent de tout leur cœur et ils errent dans les ténèbres. Le psalmiste disait dans le psaume 119, verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » On peut chercher de tout son cœur et s'égarer. Le cœur n'est pas suffisant, c'est-à-dire le cœur, la volonté, l'intelligence, les bons sentiments, tout ce qui fait que... Non, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas de chercher avec son cœur. Verset 18, il dit... Reconnaissant que le cœur ne suffit pas, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il comprend enfin que ce n'est pas avec le cœur, mais c'est avec les yeux. Il y a quelque chose de très précieux là. Il passe du cœur aux yeux. Le cœur, la Bible nous dit qu'il doit être à sa bonne place. Et on trouve dans Ecclésiaste 10 que le cœur de l'homme juste s'incline vers la droite. Et le cœur de l'homme méchant s'incline plutôt vers la gauche. Alors, on ne fait pas de politique, hein, mais on ne fait pas de politique. Ce qui veut dire, parce que la droite, c'est plutôt le côté de la force, de l'habileté, de la vous voyez, les gauchers, ils sont très habiles de la main gauche, mais ils ne sont quand même pas en majorité. Vous êtes d'accord? Donc voilà, on n'a rien contre les gauchers. Hein. L'œil doit être sain. Le cœur, lui, il s'incline d'un côté ou il s'incline de l'autre. Il a des raisons de s'incliner d'un côté ou des raisons de s'incliner de l'autre. Le cœur, de tout mon cœur. Oui, mais le cœur, il s'incline. L'œil, quand il voit, il voit. Vous comprenez? Quand nous voyons le chemin sur lequel nous marchons, quand nous voyons Jésus dans sa parole, dans la Bible, dans les prédications, dans les enseignements, quand nous voyons que nous marchons à la lumière, ta parole est une lumière sur mon sentier. Hein? Quand nous sommes éclairés, alors notre œil, il transmet cette lumière à tout notre corps, à tout notre être, à nos projets, à nos ambitions, à ceci, à cela, à tout, afin que nous puissions tout mettre au service de Dieu et au service de notre prochain. Et ça, c'est ce qui donne un sens à notre vie. On sait dans quel sens on va, on n'est pas en train de tâtonner. On sait parce qu'on voit. On reconnaît Jésus dans toutes nos œuvres, on le voit. À l'inverse, l'obscurité dans laquelle la cécité plonge l'homme, eh ben, ça le rend méfiant, ça le rend intolérant, aussi impitoyable, soupçonneux, pointilleux, il tâtonne, il bouscule les trucs, il n'est pas... Vous comprenez mes frères et sœurs? Et il se prive de sens, mes frères et sœurs. De même que c'est grâce à la vue que nous savons où nous allons, c'est grâce à la vision spirituelle saine que la vie peut viser un objectif, prendre un sens. Alors, soyons comme des enfants qui écoutent leur père. Soyons comme des enfants. Ne discutons pas au sujet de ce que Dieu a dit. Ne discutons pas au sujet de ce que Dieu a voulu que ses serviteurs, les apôtres, les prophètes, écrivent dans le livre, dans le Saint-Livre. Ne discutons pas. Laissons-nous éclairer par le Saint-Esprit. Prions la prière du psalmiste qui disait « Ouvre mes yeux pour que je contemple ces merveilles. » Sinon, notre lumière est ténèbre. Une lumière qui est ténèbre. Ben oui. Cette femme a cru ce que je disais. Pourquoi est-ce qu'elle a cru? Parce qu'il y avait un intérêt. Vous voyez, les gens qui ne nous croient pas quand nous leur parlons au sujet de ce que Dieu nous a donné, c'est Dieu qu'ils ne croient pas. Mais ils ne le savent pas, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Vous voyez que c'est un cercle vicieux. Quand Jésus dit « ceux qui vous reçoivent me reçoivent », c'est ça qu'il veut dire. « Ceux qui vous reçoivent me reçoivent », c'est ça que Jésus est en train de dire. Ne pas croire le message d'un messager, c'est ne pas croire celui qui a envoyé le messager. Et c'est parce qu'il ne nous croit pas qu'il continue à marcher dans les ténèbres, et c'est un cercle vicieux. Ils ne peuvent pas voir, alors ils ne voient pas. Ne voyant pas, ils continuent à ne pas voir. Mais il faut qu'ils crient. C'est le psalmiste cherchait tout son cœur, puis un jour il a dit, mais ça ne va pas, je risque de m'égarer. Mon Dieu, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler. Alors, dans ceux qui ne voient pas, certains sont conscients d'être dans les ténèbres, et puis d'autres, ils croient voir. Alors ça, c'est terrible. On va lire un passage dans les Écritures. C'est Jésus qui parle avec des religieux. Chapitre 9 de Jean, Jean chapitre 9. Et au verset 39 à 41, Jésus dit, donc c'est à des pharisiens qui disent ça, pas des parisiens, des pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens religieux de l'époque. Il dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Oh, le doux, bon Jésus. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et dirent, nous aussi, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché demeure. Ah, la lumière de certains est ténèbre. On a lu ça dans notre texte. Parce qu'ils refusent de voir la parole. Jésus, la parole, elle se tenait devant eux. Dieu, Jésus se tenait devant eux. Ils avaient devant eux un bonhomme avec une barbe, avec des yeux, avec un nez. Il y avait peut-être deux, trois poils qui sortaient du nez. Ils regardaient ça, puis ils disaient, mais alors, c'est pas Dieu, c'est un homme. Vous comprenez? Ils ne voyaient pas que Jésus, il était l'accomplissement de la prophétie, qu'il était Dieu venu sous la forme de la chair, en forme de chair. Ils ne voyaient pas que c'était la parole accomplie. Ils ne voyaient pas que c'était la parole de Dieu annoncée, faite chair, devenue une réalité. Dans l'évangile de Thomas, au Logion 5, il est écrit, Jésus a dit, « Connais celui qui est devant ton visage, et ce qui est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se manifestera. » On va lire le commentaire, si vous voulez bien, que j'en ai fait de cet évangile de Thomas. Je ne vais pas me justifier de croire dans l'évangile de Thomas. Vous trouvez toutes les réponses et toutes à vos questions dans Révélation Bible. À ce sujet-là, vous pouvez aller lire. Je ne vais pas passer mon temps à me justifier tout le temps. Donc, l'évangile de Thomas. Voilà le commentaire. Celui qui est devant ton visage, c'est Dieu, mais tu ne le vois pas. Cela signifie que tu ne sais pas que tout ce qui t'arrive est arrangé par lui dans un but. Alors tu subis ton existence, tu ne vis pas. Parfois les choses qui t'arrivent te réjouissent, parfois elles t'attristent. Parfois tu te laisses influencer négativement par ce qui se passe ou par les gens que tu rencontres. Parfois tu te laisses influencer positivement. Tu es victime des illusions de ce que tu vois et de ce que tu sens. La connaissance de Dieu et de sa façon d'agir te libérerait. Si tu pouvais voir le visage de celui qui est devant ton visage, si tu pouvais savoir que tout ce qui t'arrive concourt ensemble au bien de ceux qui voient le visage, c'est-à-dire de ceux qui aiment Dieu et savent qu'ils sont aimés de Dieu et que rien n'arrive sans sa volonté. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelées selon son dessein. Connais donc celui qui est devant ton visage. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Tu entreras dans son repos. De toute façon, ces choses seront dévoilées un jour. Tu verras comme tu es vu. Alors pourquoi attendre? Moi, je ne vois pas. La femme qui était dans ma réunion ne voyait pas. Mais elle m'a cru. Et elle a vu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Les gens qui voyaient Jésus en chair et en os devaient avoir la révélation de qui il était pour voir que Dieu se voilait en lui. S'ils n'avaient pas cette révélation, ils ne pouvaient pas voir que Dieu était en lui. Mais pour avoir une révélation, il faut un miracle. Et pour avoir un miracle, il faut demander Et quand il n'y a pas de miracle, ce n'est pas ce qu'on demande dans le but de se satisfaire soi-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Beaucoup des contemporains de Jésus n'ont vu devant eux, en voyant Jésus, qu'un être humain. Un être humain qui faisait des miracles, soit, voilà, mais bon. Moi, je me rappelle avoir témoigné à des gens, même de la famille. Hein. Ils me disaient, « Ah, oh, ben oui, nous aussi, on connaît, il y a un voisin chez nous qui fait des trucs comme ça, il est magnétiseur, et puis, tout de suite, ils connaissent aussi, eux, quelqu'un qui, ni, 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 ni. Ils ne voient pas qu'on est en train de leur parler de Dieu. » Et ils en restaient là, ne voyant qu'un être humain, ne voyant pas Dieu. Aujourd'hui, c'est différent, on ne voit plus Jésus avec sa barbe, avec sa robe, avec son... Moi, j'imagine qu'il avait des yeux bleus, mais enfin bon. Aujourd'hui, c'est différent. Jésus est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et de nos jours, c'est le Saint-Esprit de Jésus qui s'exprime au travers des vrais croyants disciples. Alors, il s'exprime de sorte que ces vrais croyants-là peuvent faire les mêmes œuvres que lui, que Jésus a faites autrefois, quand il était sur la terre. Est-ce que vous voyez celui qui manque de respect à un vrai croyant manque de respect à celui qui l'a envoyé. Celui qui vous reçoit me reçoit. Ce que vous faites à l'un des plus petits de ma famille, de mes frères, c'est à moi que vous le faites. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui vous rejette, me rejette. Parce que maintenant, Jésus, il vit dans ses enfants. Et en particulier, il parle par les ministères. Vous savez, l'œil humain, il perçoit les choses comme étant extérieures à eux. Mon œil, il voit le piano là. Il est extérieur, il n'est pas en moi le piano, il est là. Le disciple de Jésus, en qui l'Esprit de Jésus vit, il perçoit les choses autrement. Ce n'est plus lui qui perçoit, ce n'est plus le disciple qui perçoit, c'est Christ en lui qui perçoit au travers de ses yeux. C'est une perception qui n'effleure même pas mais alors qui n'effleurent pas les gens qui ne sont pas régénérés ou qui n'effleurent pas les chrétiens qui sont charnels, c'est-à-dire qui pensent et qui prient seulement pour leurs besoins matériels, de confort, de ceci, de cela. La lumière dont parle Jésus, elle est bien plus qu'une lumière doctrinale. La lumière de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est Jésus lui-même. Mais comme... Il y en a qui ont des oreilles et qui n'entendent rien aux choses de l'esprit. Il y en a qui ont des yeux qui ne voient rien au sujet de ce qui est vrai. Le logis en 34 et son commentaire, on va le lire. Dans ce logis en 34, Jésus a dit « Si un aveugle guide un aveugle, ils tombent tous les deux au fond d'une fosse. » Le commentaire. Il y a beaucoup de connaissances dans ce monde, mais la connaissance humaine n'ouvre pas la porte du ciel. Même la connaissance religieuse n'ouvre pas la porte du ciel. Il faut une illumination par le Saint-Esprit pour comprendre ce que Jésus a à dire. Sinon, on se trouve face à des interprétations humaines et on est certain que ça finira dans la fosse, dans la tombe, dans la mort, et en tout cas pas dans la vie. Ceux qui font profession de vous conduire ne sont-ils pas des aveugles? Dans la bouche de Jésus, un conducteur aveugle est une personne qui croit voir et se fait suivre par des gens désemparés qui cherchent leur chemin. Les deux sont peut-être sincères, mais ils sont cependant dans le noir, dans l'erreur. En quoi sont-ils dans l'erreur? Jésus est notre berger. Une personne qui cherche à conduire les autres est dangereuse. Il prétend savoir ce qui est bon pour vous et il vous commande de faire ceci ou cela. Un véritable envoyé de Dieu ne vous dira pas ce que vous devez faire. Il vous montrera juste. C'est-à-dire qu'il vous ouvrira juste les yeux. Il vous révèle la chose. C'est tout. Une fois que vous y verrez clair vous-même, par révélation, par la révélation qui vous est faite, vous saurez ce que vous aurez à faire sans avoir besoin d'un conducteur spirituel. Jésus n'aime pas du tout. Il ne veut pas qu'il y ait de conducteur spirituel, de maître. De père. de directeur d'âme. Voilà le vrai rôle d'un pasteur. Le vrai pasteur, berger humain, il inspire les brebis. Il éclaire le chemin. Par son enseignement et par son exemple, il paie les brebis, il les fait paître. Les autres, ils cherchent juste à les tondre. Ils ne font pas que ça, mais enfin bon. L'autre jour, je parle avec un frère, il me dit « Ah, tu vas crier victoire !» Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Parce que, ça y est, maintenant je crois comme toi au sujet de qu'il y a un complot dans le monde avec des sectes qui sont en train de placer l'antichrist et tout. Et tu m'avais expliqué, mais tu ne m'as pas convaincu. Alors, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a convaincu. Je dis, ben c'est bien, c'est bien. Mais moi, je ne voulais pas le convaincre. Je voulais juste lui passer l'information. Il s'est foutu de moi. Bon, voilà, point. Mais d'une façon telle que, voilà, j'avais vraiment même pas envie de retendre encore la joue pour me faire flanquer une claque de mépris. Vous comprenez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Jésus, quand il parle, il dit la chose, puis après, c'est tout. Celui qui a les oreilles entend, celui qui n'a pas d'oreilles entend pas. C'est tout. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai prié. Je dis, Seigneur, fais qu'il comprenne, qu'il rencontre quelqu'un, qu'il lui parle, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que, là, j'ai mis une semence, fait que ça vienne, que ça pousse, que ça grandisse. Voilà, c'est Camélia qui m'a appris ça. C'est Camélia qui m'a appris ça au tout début de ma vie de converti. Elle m'a dit, il y a des choses, je ne pouvais pas même te les dire, mais je pouvais prier pour que tu puisses rencontrer des situations et des gens qui puissent te les faire comprendre. Vous voyez, mes frères et sœurs, un serviteur de Dieu, il n'est pas là pour obliger les gens à faire, il est là pour inspirer. Après, on prend, on ne prend pas, on croit, on ne croit pas, on n'entend pas, on voit pas, on veut voir, on ne veut pas voir. Jésus disait une chose et puis il se taisait. Après avoir dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, il se taisait. Alors aujourd'hui, l'Esprit parle aux églises. Il parle d'une façon parfaite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il parle sept fois. Il parle dans Apocalypse 2, 11, 2, 17, 2, 29. Il parle dans Apocalypse 3, 6, 3, 13, 3, 22. Mais qui écoute? Ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent entendre. Mais qui a des oreilles pour entendre? Ceux qui marchent dans la lumière de Christ. Ceux qui ne marchent pas dans la lumière ne peuvent pas entendre. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ceux qui marchent en Christ, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui voient sa face devant leur visage, ceux qui ont été guéris dans leur cécité spirituelle, ceux qui ont crié comme l'aveugle, « Aie pitié de moi, fils de David !» J'y vois rien, je comprends pas, éclaire-moi, donne-moi la vue. Et tout le monde dit, arrête, tais-toi, tu es en train de déranger le maître, amenez-le-moi, que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue, je le veux, et il recouvre la vue. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Parce que ce qui a de la vraie valeur, ça ne se voit pas avec les yeux de la chair, ça ne se voit même pas avec les yeux du cœur, ça se voit avec des yeux qui ont été ouverts miraculeusement par Jésus lui-même. Uniquement. Jésus dit aux religieux, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi, votre péché reste, demeure. C'est ce qu'on a lu dans Jean 19, 41. Est-ce que ces religieux étaient sincères quand ils disaient, mais nous voyons? Certains étaient sincères. Et d'autres ne l'étaient pas. Bien sûr, il y a toujours les deux. Et c'est même, à ces mêmes religieux, Jésus a dit un jour une chose frappante qui concerne la connaissance. On le trouve dans les évangiles canoniques, mais on le trouve aussi dans l'évangile de Thomas, et je voudrais vous lire ce qu'il en dit dans l'évangile de Thomas, parce que la plupart des chrétiens ne le savent pas, et c'est bien qu'ils l'apprennent un jour. Évangile de Thomas, Logion 102. Jésus a dit, « Pauvre d'eux, les pharisiens, ils ressemblent à un chien, couché dans la mangeoire des bœufs. Il ne mange ni ne laisse les bœufs manger. » Le commentaire. Luc 11, 52 dit, c'est Jésus qui parle, « Malheur à vous, les spécialistes de la loi, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Jésus dit à ces religieux, des responsables de ce qui concerne la loi de Dieu, les Écritures, il leur dit « Malheur à vous ». C'est la pire chose qu'un serviteur de Dieu puisse entendre de la bouche de son maître. Et pourquoi Jésus dit-il cela à ses religieux? Parce que c'était vrai. Et cela demeure vrai. La plupart des religieux, des gens qui enseignent, qui prêchent la parole de Dieu, cachent des choses sacrées aux fidèles qui viennent les écouter. Beaucoup n'ont rien à cacher parce qu'ils ignorent qu'il y a des choses cachées. Donc ils sont sincères. Ils devraient chercher ce qui a été caché par les anciens afin de trouver la nourriture qui convient aux gens d'aujourd'hui, mais non. Ils se bornent à leur servir toujours la même nourriture spirituelle diluée. Ils manquent de connaissances. Ils devraient être des spécialistes de la connaissance, mais ils travaillent en amateur, en bricoleur. Et puis il y a ceux qui connaissent. Ils savent qu'il y a des choses sacrées qui sont tenues cachées, mais ne veulent pas se risquer à les révéler. Ils ont peur de leurs collègues, peur de leurs supérieurs hiérarchiques, ils ont peur d'être rejetés de leur groupe, alors ils étudient ces choses cachées dans leur bureau et se taisent. Ils n'entrent pas vraiment dans ces choses et ils empêchent ceux qui voudraient y entrer d'entrer. La connaissance a une grande importance aux yeux de Jésus-Christ. Il veut que les gens connaissent les choses que les religieux ont tenues cachées. Il compare ces religieux à des chiens. C'est une comparaison qui frise le mépris. Le chien est un animal impur dans la loi de Moïse. Alors, quand un enfant de Dieu lit ça, il se pose normalement la question suivante. Et moi, est-ce que je connais des choses que je tiens cachées? Quand nous ne témoignons pas de notre foi devant les ignorants, nous leur cachons la vérité, nous les empêchons d'avoir accès à de la nourriture dont ils ont cruellement besoin. Ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit l'ont été afin d'être des témoins puissants. Nous n'avons pas été baptisés dans le Saint-Esprit pour pouvoir nous réjouir en parlant en langue entre les quatre murs de notre Église. Nous avons reçu pour être des témoins. Actes 1, 8. Et le mot « témoin », c'est le même mot que « martyr ». C'est sûr que si vous allez parler de Jésus aux gens, les gens vont se moquer de vous, les gens vont vous embêter. Vous n'allez peut-être pas être des martyrs au sens de « vous n'allez peut-être pas mourir comme ces prêtres qui sont morts, là, dont on a fait le film ». Mais vous allez être ennuyés, vous allez être persécutés, vous allez être embêtés, on va vous charrier, on va vous embêter. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens ne témoignent pas. C'est parce qu'ils ont peur de la réaction des gens auxquels ils vont témoigner. Alors, ils ne parlent pas. Si parfois la vie vous semble difficile, pleine de malheurs, c'est parce que vous ne témoignez pas et que votre témoignage n'est ou que votre témoignage n'est pas bon. Si vous vous occupiez du royaume et de la justice de Dieu en premier, vous verriez Dieu prendre soin de toutes les choses qui concernent votre vie terrestre. Matthieu 6, 33. Est-ce qu'il l'a promis, oui ou non? Mais le peuple de Dieu prie pour que Dieu s'occupe de ses affaires, mais le peuple de Dieu ne fait pas ce que Dieu dit. Occupez-vous de mes affaires, révélez les choses cachées, et ainsi moi je prendrai. Parlez des choses de la justice et du royaume, et moi je prendrai soin de vos choses, de vos affaires. Je vous le dis clairement, je ne vous cache pas la vérité, je ne tiens pas du tout à entendre Jésus me dire un jour « Malheur à toi, Michel Janton, car tu as caché la connaissance à ceux qui se donnaient la peine de lire tes écrits. » Mais il y a encore plus. Depuis qu'Enoch a écrit son livre, il y a toujours eu des gens pour trier et tenir caché ce qui les dérangeait. Enoch dérange, on le cache. L'évangile de Thomas dérange, on le cache. Etc., etc., etc. Tout au long des millénaires, il y a eu beaucoup de livres inspirés qui sont tenus cachés par les dirigeants religieux juifs et chrétiens. Tous ces livres inspirés et tenus cachés portent un nom. Ils portent le nom de apocryphe. Apocryphe signifie tenu caché. Les religieux à qui Jésus parlait ce jour-là savaient très bien qu'ils étaient en possession de livres secrets, cachés. Ils n'aimaient pas ces livres parce que ces livres contredisaient leur doctrine. Alors, de siècle en siècle, ils les ont tenus cachés dans le secret. Ils ont fait croire aux petites gens que ces livres n'étaient pas inspirés et les petites gens leur ont fait confiance après tout. Ce sont les spécialistes de ces choses, n'est-ce pas? Ils savent mieux que nous. On peut leur faire confiance, il faut les croire. Et c'est ainsi que, dans le conscient populaire, le mot apocryphe a pris le sens de douteux et le sens de pas inspiré, le sens de non authentique, le sens de suspect. Jésus dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance et vous avez empêché les gens d'entrer. Je ne veux en aucun cas que lorsque j'arriverai devant le trône de Dieu, mon Père, il me soit dit que j'ai enlevé la clé de la connaissance aux gens de mon époque. Voilà pourquoi je m'applique à passer des heures dans mon bureau, à prier, à lire, à chercher, à écrire. C'est afin d'entrer dans cette connaissance et de vous y faire entrer à votre tour. On m'a maudit pour cela, 2 fois. Des religieux m'ont maudit en parole et certains même par écrit. Je sais que mon Dieu, lui, me bénit. Alors je ne les crains pas et je les plains et je prie pour eux. Ne laissez pas cette connaissance loin de vous. Entrez en elle. Il faut que cette connaissance soit au même niveau que l'amour que vous avez pour Dieu et pour les gens. S'il y a un déséquilibre entre la connaissance et l'amour, vous ne serez pas tenu pour innocent. 1 Corinthiens 8:1, 1 Corinthiens 13:2. Daniel 12:14 nous dit qu'à la fin, la connaissance augmentera. Que toute cette connaissance apparaisse aujourd'hui est un des signes de la fin du temps des nations. Mais veillez à ce que l'amour ne se refroidisse pas. Voici une liste pour vous donner un exemple des livres que vous n'avez pas et que la Bible mentionne absolument clairement. C'est des livres qui sont tenus cachés. Vous voulez écouter la liste? Exode 24:7 nous parle du livre des alliances. Nombre 21:14 nous parle du livre des guerres de l'Éternel. Josué 10:13 et 2 Samuel 1:18 nous parle du livre des justes. 1 Roi 11:41 nous parle du livre des actes de Salomon. Le livre de Samuel le voyant, le livre de Nathan le prophète, le livre de Gad le voyant, 1 Chronique 29-29, 2 Chroniques 9-29, nous parle des prophéties d'Achias de Silo, 2 Chroniques 9-29 nous parle des révélations de Jéhédo, le livre de Shemaïja, le prophète de Ido, qui est prophète lui-même, 2 Chroniques 12-15 et 13-22, il y a aussi le livre des mémoires de Jéhu, 2 Chroniques 20-34, le livre d'Osaïe, 2 Chroniques 33-19. Il y a une lettre de Paul aux Corinthiens qui est perdue. Pas pour tout le monde. 1 Corinthiens 5-9. Il y a entre Éphésiens 3 et 2, il y a un grand texte qui est caché, perdu. Il y a une épître aux Laodicéens. On trouve ça dans Colossiens 4, 16, vous la trouvez dans Révélation Bible, elle est là, hein, cette lettre. Et puis il y a le livre d'Enoch, Jude 14, 15. Savez-vous par exemple que la prophétie d'Enoch que Jude cite dans son épître se trouve dans le livre d'Enoch 1, 9? Jude possédait le livre d'Enoch, il l'a cité Enoch 1, 9. Il l'a cité et c'est dans votre Bible. Voilà pourquoi vous avez cette prophétie dans votre Bible. Mais les religieux ont dit que le livre d'Enoch avait été écrit par une personne après que Jésus soit venu sur terre, et les gens, bêlant d'ignorance, les ont crus. Il a fallu que la science découvre Enoch dans les manuscrits de la mer morte dans les années 40 pour que ces religieuses finissent par se taire. Le livre d'Enoch est l'exemple parfait du livre apocryphe tenu caché, mais inspiré tout de même. Y en aurait-il d'autres? Je ne vous cite même pas tous ceux qui ont rejeté les pères de l'Église, mais de nos jours, vous pouvez les trouver, vous pouvez les lire. Les clés dont parlait Jésus sont réapparues, car la connaissance doit augmenter à la fin, et le peuple n'aura plus à périr par faute de connaissance. S'il périt, ce sera faute d'avoir pris ces clés que Dieu lui donne de nos jours et de ne pas les avoir utilisées correctement. Mes frères et sœurs, j'ai ce souci de perfectionnisme. Je sais que je ne suis pas parfait pour tout, mais là je suis pointilleux. J'aime la parole de Dieu. Je veux que les choses cachées soient révélées. Je veux qu'elles soient sues. C'est quelque chose qui est en moi, quelque chose que Dieu a placé pour que je le manifeste. Et je suis heureux de vous apprendre que nous aurons le 27, 28, 29, ici, à ce même pupitre, le docteur Pierre Gilbert qui va venir nous enseigner des choses que le monde tient cachées. Ça va être formidable. On va apprendre des choses formidables. Il va nous envoyer une liste de choses, de thèmes, nous proposer une liste de thèmes et nous allons choisir communautairement ce qui nous intéresserait d'apprendre. Donc, quand j'aurai la liste, on va en parler et on va décider, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils nous disent au sujet des choses qui sont tenues cachées, des choses qui sont au sujet des choses qui se produisent dans ce monde. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes en ce moment? Par exemple, ça vous intéresserait de savoir comment c'est manipulé par en dessous, etc. Mais on va le savoir, on va apprendre, on va savoir ces choses. Mes frères et sœurs, la connaissance doit augmenter. Nous devons apprendre, pas pour se dire « Ah ben je sais », non, mais pour pouvoir ensuite dire. La Bible dit « Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, ils prophétiseront ». Nous sommes ces gens-là dont la Bible parle, dont Joël parle. Nous sommes ces gens qui voient, qui ont des visions, qui voient Jésus, qui voient le visage de Jésus devant leur visage. Nous sommes ces gens qui prophétisons, qui parlons de la part de l'Éternel. Quand les prophètes se baladaient autrefois, c'était la même chose qu'aujourd'hui. Personne ne pensait que c'était des prophètes. Est-ce que tu es prophète? Tais-toi. Est-ce que tu sais que ton maître, le prophète, va... Tais-toi. Vous voyez, Jésus dit, ah, ne le dites pas, n'allez pas le dire. Oh, ceux qui doivent entendre, ceux qui doivent voir, voient. Vous avez écouté ce message jusqu'au bout sur Internet. Vous êtes courageux. Que Dieu vous bénisse, mais que cela change quelque chose dans votre vie. Que vous deveniez des gens courageux dans l'expression aussi de votre foi. Pas simplement pour recevoir, mais aussi pour donner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie. Vraiment, que nous puissions être partie de ce peuple qui révèle les choses, qui montre les choses. Ô Jésus, éclaire-nous encore, montre-moi encore des choses, révèle-nous encore des choses afin que nous puissions les publier, que ton nom soit glorifié, que ceux qui doivent voir puissent voir, afin que la lumière soit dans la maison alors que tu vas revenir, que nous ne manquions pas d'huile dans nos lampes, que notre lampe, notre œil soit vraiment bien éclairé et que nous puissions partir à ta rencontre, que nous ne soyons pas pris au dépourvu, mais que nous puissions partir à ta rencontre. Merci Seigneur Jésus de nous aider jour après jour en cela. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen. Amen.